permet d'enregistrer pour ensuite communiquer cette homélie à ceux qui pourront l'écouter ultérieurement quand on l'aura envoyé par Internet. Tout arrive. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mes chers sœurs, mes bien chers frères, on pourrait se dire à vue même, cette année, la fête de Pâques se célèbre en demi-teinte. Nous sommes en quelque sorte, à vue même toujours, partagée entre la joie, bien sûr, et puis la tristesse de voir cette chapelle pratiquement vide, pratiquement, on peut dire complètement vide, voilà. Et puis cette tristesse qu'ont tous ceux qui ne sont pas là. Nous sommes tristes parce qu'ils ne sont pas là, mais eux le sont aussi parce qu'ils ne sont pas là. En réalité, mes bien chers frères, nous devrions avoir aujourd'hui une joie complète, comme nous le promet notre Seigneur dans son discours après la Sainte Cène, que votre joie soit complète, sans aucune ombre, sans l'ombre d'aucune tristesse, d'aucun regret. Il ne faudrait pas croire en cette année de confinement, dans cette fête de Pâques très particulière, la résurrection de notre Seigneur soit moindre, que la résurrection de notre Seigneur soit moins retentissante. Non, mes bien chers frères, nous l'avons affirmé cette nuit, bénissant le cierge pascal, Christus eri et odie et in secula. Le Christ, c'est le même. Hier, aujourd'hui et pour toujours, c'est le même. Autrement dit, le mystère que nous célébrons aujourd'hui, qui est le mystère du Christ, et quel mystère, c'est le même. Il ne change pas, quelles que soient les conditions extérieures, humaines, sociales, dans lesquelles nous pourrions célébrer cette fête de Pâques, le mystère de Pâques ne change pas, la résurrection ne change pas, elle est la même. Elle est la même. Il faut que cette année, la fête de Pâques ne perde rien de sa fraîcheur, de son actualité, de son retentissement, de son éclat. Nous pourrions en effet parler de la fraîcheur du matin de Pâques. Qu'est-ce qui se dégage de ce mystère? Qu'est-ce qui habite le cœur des apôtres? Et pour commencer, le cœur de la très sainte Vierge Marie, c'est évidemment la joie et la paix. Cette paix que notre Seigneur souhaite lui-même à ses apôtres. Cette paix que notre Seigneur veut pour le cœur de chacun d'entre nous. Que la paix soit avec vous, autant pour ceux qui sont ici que pour ceux qui sont malheureusement chez eux. Et c'est la même paix. Et c'est la paix qui doit être la même que celle qui a pu habiter les apôtres et même la très sainte Vierge Marie. Et de même pour la joie. Nous ne devons rien perdre de la paix qui était celle des apôtres, de la paix propre au mystère de Pâques, de la joie qui découle du mystère de Pâques, qui découle de la résurrection. Notre Seigneur est ressuscité. Autrement dit, nous le savons, toutes les peines que nous aurons par la suite à supporter, c'est des peines qui aboutiront à la victoire de notre Seigneur du moment que nous les accepterons comme notre Seigneur a accepté sa croix, a accepté son sacrifice. Donc nous sommes dans la joie. Et même la croix qui est la nôtre aujourd'hui, la croix qui sera la nôtre demain, la croix doit même accentuer la joie, accentuer la paix, comme on le voit dans l'exemple de beaucoup de saints, par exemple Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, qui se réjouissait des humiliations qu'il avait à supporter, des contradictions qu'il avait à essuyer. Il s'en réjouissait. Il voyait par là qui était de plus en plus conforme à notre Seigneur crucifié, et donc qu'il participera encore davantage à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. La joie lui est encore plus garantie, la paix lui est encore plus garantie. Et c'est une fête qui ne doit rien perdre de son actualité. Je le disais tout à l'heure, c'est le mystère de quelqu'un qui est le même. C'est le mystère de quelqu'un qui est Dieu, donc la résurrection est toujours la même. Et cette résurrection va agir encore dans nos âmes, notamment grâce au sacrement. Alors il est vrai que parmi ceux qui pourraient m'entendre par la suite, il y en a beaucoup qui ne communient pas, c'est sûr. Il y en a tout de même certains qui ont pu faire leur Pâques déjà. Et puis, il y a la communion spirituelle. Et puis, il y a cette messe qui se célèbre au Fournil en ce matin de Pâques et qui va rayonner au-delà des murs de cette chapelle, sans aucun doute. Il y a nos communions que nous offrons pour tous ceux qui sont absents. Autrement dit, effectivement, l'Eucharistie est bien présent parmi nous d'une manière ou d'une autre, et de ce fait, la résurrection agit efficacement, réellement, peut agir en tout cas dans nos cœurs, dans nos âmes. Pensez que nous recevons notre Seigneur en personne tel qu'il est depuis le matin de Pâques, tel qu'il est depuis le matin de Pâques, c'est-à-dire glorieux et ressuscité. Ça n'est pas un Christ mort. En même temps qu'il est glorieux et ressuscité, il est toujours immolé. Effectivement, la messe, c'est le sacrifice de notre Seigneur. Mais il n'empêche que notre Seigneur présent à l'autel, présent dans nos cœurs, c'est le même que celui qui est ressuscité le matin de Pâques. Alors vous imaginez la répercussion que la communion peut donner à la résurrection dans notre âme. Répercussion. Imaginez l'effet que la résurrection peut produire, la résurrection de notre Seigneur peut produire dans notre âme grâce à sa présence réelle dans nos cœurs. Et c'est pourquoi nous disons que l'Eucharistie est le gage de la vie éternelle, que l'Eucharistie nous garantit la vie éternelle, car en effet, recevant notre Seigneur ressuscité, nous sommes de ce fait comme happés par la gloire. Nous sommes déjà tout tendu vers l'éternité. Chaque communion doit encore plus nous orienter vers l'éternité et raviver, revivifier le désir du ciel. Le désir du ciel. Et c'est la première grâce que l'Église nous a fait demander à l'occasion des fêtes de Pâques, qui a commencé par la bénédiction du feu nouveau. Et bénissant ce feu nouveau, l'Église nous fait demander à Dieu la grâce d'être enflammée dans nos cœurs par le désir des biens célestes. Des biens célestes. Alors que chaque communion nous détache toujours plus, bien évidemment, du péché, et même de toute affection au péché, de toute affection désordonnée pour les choses de ce monde, que chaque communion nous détache précisément de ce monde. Car la communion, en fait, nous permet d'emboîter le pas derrière notre Seigneur. Notre Seigneur qui nous entraîne vers l'éternité. J'ai parlé cette nuit de cette procession qui a eu lieu à la suite du siège pascal, qui représentait notre Seigneur glorieux. Notre Seigneur glorieux, notre Seigneur qui nous éclaire, qui continue toujours à nous éclairer par son Église, par son Évangile, par le magistère de l'Église, et notre Seigneur, tout rayonnant de sa gloire, guide nos pas à nous de nous mettre juste derrière notre Seigneur. Et c'est ce que nous indique notre Seigneur à travers le message de l'ange qu'il donne aux saintes femmes et après aux apôtres, allez en Galilée, c'est là qu'il vous précède, qu'il vous précède. Autrement dit, notre Seigneur est devant pour que nous soyons derrière, que nous le suivions. Et que nous le suivions de très près. Il y en a un qui le suivait déjà pendant la passion de notre Seigneur, c'est saint Pierre, on l'a chanté dans les réponses. Mais que dit-on hein, au moment de la passion? Saint Pierre suit notre Seigneur de loin, à longe. Il le suit de loin. Il n'ose pas totalement s'engager à la suite de notre Seigneur. Il est réservé, il est hésitant, il a peur peut-être, et certainement. Eh bien, nous aussi, on pourrait avoir peur de notre Seigneur, en tout cas de cette voie dans laquelle il veut nous engager pour notre plus grand bonheur. On en a peur. On voit, on aperçoit sur cette voie la croix hein, qui jonche finalement la voie du ciel, sans aucun doute. Ça peut nous faire peur. Mais on oublie qu'il y a notre Seigneur. On regarde plus à la croix qu'au Christ. Alors qu'on devrait davantage regarder à notre Seigneur ressuscité. Et nous voilà donc engagés à le suivre avec une totale assurance, une totale confiance en sa grâce sur laquelle il faut nous appuyer. Alors, nous nous tournerons pour finir vers la très sainte Vierge Marie. J'en parlais déjà cette nuit et il ne vous a peut-être pas échappé que la messe le jour de Pâques, se célèbre dans la basilique dédiée à la Sainte Vierge à Rome, Sainte Marie Majeure. C'est parce que, il est vrai, c'est la tradition qui l'atteste, Notre-Dame a joui la première de la vision de notre Seigneur ressuscité. Notre Seigneur s'est manifesté à plusieurs, sainte femme, aux apôtres, mais d'abord la Sainte Vierge, c'est certain. Il y a plein de raisons de convenance, comme on dit, qui militent en faveur de cette croyance, qui est totalement et parfaitement étayée. Mais il y a aussi une autre indication. Il y a le fait que la très sainte Vierge est la première de toutes les créatures à participer à un degré inatteignable pour tous les autres êtres humains. La Sainte Vierge participe d'une manière unique à la résurrection de notre Seigneur. Tant et si bien que la très Sainte Vierge n'a pas à attendre la fin du monde pour ressusciter dans son corps. Son corps est déjà glorieux. Tous les autres saints devront attendre la résurrection de la chair pour que leur propre chair, enfin, participe de la gloire qu'ils possèdent déjà dans leur âme. La Sainte Vierge, elle, est déjà dans la gloire, dans son âme évidemment, mais aussi dans son corps. C'est la seule à participer aussi parfaitement et à un degré qu'on ne peut pas imaginer à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle est unique. Elle est pleine de grâce et pleine de gloire. Pleine de grâce et pleine de gloire parce que, dit-on en théologie, la grâce sanctifiante, la semence de la gloire. Et comme son degré de grâce est immense et d'une plénitude qu'on ne peut pas imaginer, eh bien, son degré de gloire est du même ordre. Est du même ordre. Totalement analogue à sa plénitude de grâce. Et comme on dit qu'il faut aller à Jésus par Marie, il faut atteindre la gloire de Jésus, et bien pour aller à la gloire de Jésus, il faut passer par la gloire de Marie. Il faut cette dévotion envers la très sainte Vierge, une Vierge glorieuse. Ne l'oubliez pas, c'est une Vierge glorieuse. Elle est immaculée. Son cœur est douloureux, son cœur est immaculé. Elle est pleine de grâce. Mais n'oublions pas, c'est vrai que peut-être nous l'oublions dans notre dévotion mariale, elle est glorieuse. On pourrait la saluer comme également Vierge glorieuse. Par-dessus tous les autres êtres humains, hein, en dessous de notre Seigneur. Et même au-dessus des anges, qui lui fait mériter hein, ce titre de reine des anges, comme elle a celui de reine de tous les saints. Donc, que notre dévotion mariale nous plonge un peu plus dans sa gloire pour qu'on puisse atteindre celle de son divin Fils. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.